Donc, bonjour, je m'appelle François Parra, je suis artiste sonore, donc je travaille le son dans un contexte de mobilité, d'interactivité et de transmission de la mémoire, en particulier des territoires. Je suis également enseignant à l'École d'art d'Aix-en-Provence, ce qui m'a valu la possibilité d'expérimenter certaines des formes du Mobile Audio Fest. Les trois formes sur lesquelles je pense avoir quelque chose à dire sont plutôt liées aux questions d'audio walk et de sound walk, puisque j'ai fait dans une après-midi complète trois audio walk et sound walk, en l'occurrence la première étant celle d'Andrew Brown, qui était un parcours se déroulant de l'École d'art d'Aix-en-Provence jusqu'à la Fondation Vasarely, donc sur un principe d'enregistrement binaural, de montage, mixage et de restitution de paysages fictifs à l'intérieur d'un paysage réel. Le deuxième étant une proposition d'Éric Maillet basée sur des QR codes déclenchant des montages audio géolocalisés. Et le troisième étant les Electrical Walks de Christina Kubisch, on va dire pièce un peu historique de la question de l'audio-mobilité. Moi, ce qui m'a frappé sur ces trois formes, c'était à quel point, d'une part, on pouvait, par des variations infimes de dispositifs, plonger l'expérimentateur dans un espace ou dans un autre, à savoir l'écoute au casque était, on va dire, le point commun de ces trois protocoles, mais après, je pense que quelqu'un comme Andrew Brown s'est attaché à s'immerger dans un contexte historico-politico-géographique de la ville pour, à un moment, en donner une lecture à un instant T par un parcours qui était quand même déterminé, pas au hasard, puisque l'école et la Fondation Vasarely sont des bâtiments culturels de la ville qui sont construits quasiment à la même époque, qui ont un lien de parenté, peut-être pas direct, mais qui existe, et que lui, il a appuyé son parcours sur ça. Ce parcours-là, on peut aussi en parler en termes de passer d'un centre-ville historique à une banlieue industrielle. Enfin, il y a des tas de choses qu'on peut dire sur cette chose-là, sur le choix du parcours. Eric, quant à lui, Eric Maillet a plutôt choisi une déambulation, on va dire, post-périphérique, en étant à la lisière des boulevards historiques de la ville. Et Christina, elle a choisi une déambulation stricto sensu à l'intérieur de la ville en fonction des points d'écoute intéressants liés à l'activité électromagnétique. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé de faire ça l'un après l'autre, c'est de voir à quel point, en fait, on peut utiliser le son pour déjà dans des protocoles très différents, en lui faisant dire des choses très très différentes. Puisque on va dire qu'on est en permanence dans une articulation entre réalité et fiction, mais la dose de l'un et la dose de l'autre fait vraiment le contenu du travail. Par exemple, je pense que quelqu'un comme Christina est pour moi vraiment dans la construction d'une musique qui vient structurer le réel, là où quelqu'un comme Eric est dans la question de l'entrevue avec des gens qui parlent du réel, mais ça ne constitue pas une bande-son à proprement parler. Et là où le travail d'Andrew interpelle également la question de la prise de son, enfin il laisse parler le paysage en rapport avec des gens qui en parlent, mais également à un autre endroit qui est peut-être dans un endroit plus de mise en perspective historique ou politique. Et ce que j'ai trouvé d'assez passionnant, c'est de voir à quel point le son se laisse manipuler comme une espèce de matière à raconter des points de vue, mais vraiment très hétérogène. Et c'est en ce sens-là que je trouve que de les avoir fait les trois les unes à la suite des autres était vraiment une belle expérience. Évidemment, complètement bluffé par la proposition de Christina Kubisch pour certaines raisons, parce que peut-être que je suis très sensible à des histoires de composition et de musique, et que j'en ai discuté longuement avec Christina en lui demandant qu'est-ce qu'elle faisait en dehors des Electrical Walks, et puis elle m'a dit évidemment qu'elle composait. Moi, ce que j'ai bien aimé dans le sa proposition, c'est le fait que le dispositif soit de nature analogique, ce qui change totalement le rapport à la question, par exemple, d'une proposition comme celle d'Andrew, où la restitution du son et la capture se fait de manière numérique, et au bout d'un moment, c'est des choses qui finissent par avoir leur importance. Dans la proposition d'Éric Maillet également, il y a quand même une dimension numérique, puisque le son est enregistré, mixé, monté et diffusé par, on va dire, un site web donc qui stream. Le son où ça pourrait être fait via un baladeur, mais en tout cas il y a une dimension digitale dedans, et ça aussi c'est important, je trouve, dans le travail. Les outils qu'on utilise donnent, et voilà, je sais que j'ai été très sensible à la proposition de Christina, vraiment parce que je trouve que le fait qu'on soit dans un rapport analogique aux choses, pour moi, est un rapport musical. Alors, je pense que tous les gens qui font de la musique de nature digitale vont m'en vouloir si je dis des choses comme ça. Il n'empêche que notre échelle de perception, elle est analogique. Mmh. Voilà. Même si on travaille avec des outils digitaux, avec du glitch, avec de la rupture, avec des outils numériques, notre corps reste encore sur une échelle de perception analogique. Et j'ai trouvé, par exemple, que le simple fait qu'on ait pas la même son dans l'oreille gauche et l'oreille droite, et le fait qu'on puisse bouger sa tête et avoir une perception ou une sensation d'espace, puisque c'est une sensation, c'est pas un vrai espace, c'est un espace électromagnétique, mais ça, immergé dans une réalité acoustique proche d'un paysage sonore mais auquel on ne touche pas finalement, ça me paraissait être c'est un endroit auquel je suis sensible. Voilà. Après, j'ai beaucoup aimé les montages d'Éric Maillet également, de par la manière dont il arrive à s'emparer à un moment d'un bout du réel, et puis surtout la manière dont il manipule le temps. C'est-à-dire que déjà, il va chercher des personnes qui sont en rapport avec les lieux, qui ont vraiment quelque chose de précis avec le lieu. Je pense notamment ici à l'interview de Rudy Ricciotti en face du pavillon noir, dans lequel il y a une mise en place entre un lieu, son histoire et des moyens de le raconter qui sont des vrais moyens réfléchis, entre la question de la voix, la question du paysage, et également la manière dont il amène dans le montage cette chose-là, que moi je trouve être assez fine, parce qu'il dévoile vraiment les choses au fur et à mesure, et il en lâche le moins possible, et ça continue à créer une tension entre le réel et sa narration, que moi je trouvais forte. Après, j'ai beaucoup aimé aussi le parcours qui s'est instauré. Alors ça, le choix à l'intérieur de ça, j'imagine qu'il est lié aux bornes sur lesquelles on a les QR codes. Néanmoins, le fait de déambuler sur une espèce de périphérie d'Aix-en-Provence, moi, m'a permis de voir la ville comme je ne l'avais jamais vue. Oui. C'est-à-dire pas d'un point de vue touristique, pas non plus totalement en dehors de cette question-là, mais à la lisière. Voilà. Et je trouvais que le parcours était vraiment intéressant pour
ça. Oui, là, le choix du parcours, en fait, c'était un peu... c'était complètement influencé par l'emplacement des colonnes Maurice, qui étaient les supports utilisés par lui. Mais il avait quand même la possibilité, parce qu'il n'y avait plus de colonnes que celles qu'il a choisies. Donc, il avait quand même un petit choix dans les placements et dans les lieux... qu'il a après utilisé.
Oui. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, moi, ça m'a donné un point de vue, une manière de regarder, de me déplacer dans la ville, qui était pour moi un point de vue inédit. Et c'est quand même déjà pas mal. Voilà. Et puis sur la question de comment lui, il fait un son en contexte, mais également hors contexte, et quelque chose qui peut être écouté de manière autonome et qui a vraiment quelque chose à dire sur la question, on va dire, du radiophonique ou de la création sonore, qui peut être entendu en contexte ou hors contexte. Voilà, je trouve qu'il y a aussi un choix de travail que je trouvais intéressant là-dedans. C'est à peu près les choses dont je me souviens. Alors après, sur la question de l'audio walk d'Andrew Brown, moi j'ai trouvé le parcours vraiment intéressant. Il m'a manqué une dimension pour moi dedans, personnelle. C'est une rencontre plus grande avec le réel, c'est-à-dire que j'ai trouvé que la bande fonctionnait bien, le parcours fonctionnait bien. Je trouvais que pour moi il manquait des temps dans lesquels l'une et l'autre rentraient au minimum en contact, voire en collision. Mmh. Mais ça, je pense que c'est, après, c'est pareil, hein, c'est des impressions personnelles.
Oui, bien sûr.
On a des attentes. Bah, et ayant moi-même réalisé des audiowalks, j'ai des attentes. Et je n'ai pas l'attente de quelqu'un qui ne pratique pas. Donc, on va dire que c'est peut-être plus une question de dosage qu'une question de principe. Voilà.
Non, quand je fais les parcours, j'ai eu personnellement des moments de synchronisation. Mais c'est vrai que il y avait pas mal de moments où en fait les deux étaient, il n'y avait pas de vraie collision comme tu dis entre
Oui.
les sons et les parcours.
Oui, mais ça, c'est, je pense qu'après, c'est vraiment des histoires d'attente personnelle. J'en fais pas. Voilà, c'est. Voilà, on vit les choses à un moment en fonction d'un parcours qu'on a eu, d'un endroit d'où on vient. On a des attentes. Donc, à la limite, je pense que mon opinion sur ce travail-là est peut-être même pas recevable. Voilà,
D'accord.
parce que je connais très bien ce parcours-là, je l'ai expérimenté moi-même et que du coup, peut-être que ça a créé des attentes chez moi qui n'étaient pas dans le travail d'Andrew. Et voilà, et peu importe. Après, moi, je trouve que dans le temps de production, le cadre de production qui était celui-là, je trouvais que la bande était intéressante. Elle racontait des choses, notamment dans le rapport de Pierre qui parlait de l'histoire de la ville, des choses qui étaient intéressantes à entendre. Et voilà. Donc, ça, ce sont à peu près les trois formes que j'ai expérimentées le mieux, enfin que j'ai, où j'ai, voilà. Et je trouvais ça vraiment
Je
intéressant.
voudrais te demander une chose par rapport à Andrew, parce que sur les dispositifs qu'il utilise pour les promenades, parce qu'en fait, normalement, quand on fait des audio walk, on est tout seul avec un écouteur, avec je veux dire, un MP3 qu'on écoute sur notre dispositif portable. Et on a une carte à suivre avec des indications qui sont aussi dans la bande son. Alors que Andrew, il propose en fait de faire des promenades guidées en groupe, et qui a une formule un peu différente et qui est peut-être choisie aussi pour des raisons pratiques, parce qu'en fait, synchroniser une balade avec des instructions demande énormément de temps, surtout qu'il a travaillé sur une longue durée d'une heure et demie. Et bah, je suis curieuse un peu de te demander si, à ton avis, l'effet de faire une promenade avec un groupe assez nombreux parfois, parce qu'il y a aussi eu des promenades avec 20 personnes, et guidée directement par l'artiste, ça change un peu l'expérience.
Oui, bien sûr, oui, ça la change parce que c'est une entité supplémentaire, voilà, qui fait une médiation supplémentaire entre le travail audio et son contexte de diffusion. Et c'est évident que si on est seul dans un casque avec une bande et des indications, on n'a pas cette médiation-là. Moi, je pense que les deux formes sont valables et recevables. Elles sont deux moments différents. Moi, j'ai trouvé ça appréciable de le faire avec Andrew, qui avait son rythme, ses indications et sa perception des choses, voilà. Mais je crois aussi que la promenade solo avec une bande, c'est intéressant comme autre chose. J'imagine que quand on fait une promenade, enfin un audio walk vraiment seul, qu'on rate des choses, qu'on en voit d'autres. Et que c'est juste un autre moment permis par ces formes-là.
Je pense aussi qu'il y a une dimension chez Andrew de happening en fait. C'est-à-dire que c'est aussi le fait qu'il y a un
Oui.
groupe de personnes qui se déplacent et qu'on sait qu'on est dans un groupe, qu'on voit les autres en train de se percevoir des choses. En tout cas, par rapport à l'historique de son travail.
Oui, chez
Mais
lui, il y a
aussi
aussi ces
ces aspects-là,
dimensions-là.
en fait, presque qui vient en amont d'un travail vraiment d'audio walk, c'est avant, c'est presque l'intervention urbaine, c'est du style où tout le monde regarde,
Ah non, oui.
deux personnes commencent à regarder en l'air pour finir avec une petite foule de personnes autour, mais
Alors,
tout le monde regarde en l'air parce qu'il y a quelqu'un qui regarde en l'air. Donc je pense qu'il y a aussi, chez Andrew, il y a cette volonté-là. Peut-être avant un travail vraiment radiophonique, enfin, un travail vraiment sonore, il y a une
bah,
volonté de.
Moi, disons qu'on va dire que si je devais me contredire par rapport au manque de rencontres entre la question de la bande et du réel, le moment que j'ai préféré dans l'audio walk, c'est le moment face au drapeau, où en fait on est en train de regarder les drapeaux et puis on a dans le son, dans le casque, le son de quelqu'un qui est en train de taper sur les mains des drapeaux. Et là, effectivement, il y a un moment de rencontre qui se fait entre un cadre, une écoute, un groupe et quelque chose qui est raconté par-dessus le réel. Voilà. Là, effectivement, pour moi, il y a un endroit où le fait de se déplacer de manière collective dans un espace et à un moment de se mettre à regarder et écouter la même chose, ça met le réel en perspective. Et ça, à cet endroit-là, moi, je te rejoins, c'est-à-dire que ça prend un sens d'aller marcher de manière collective et écouter de manière collective un endroit, en ce sens-là, qu'on n'écoute pas les mêmes choses, on ne regarde pas les mêmes choses, qu'il y a des jeux d'écoute et de regard qui se créent, que ça crée une situation différente dans la réalité, là où quand on marche et qu'on écoute seul, finalement, on est un passant, quoi.
Je crois que les intentions
sont
aussi liées à ça. Mais au-delà de son intention, pour moi, au niveau d'expérience personnelle, par exemple, c'était assez agréable de n'avoir pas des instructions à suivre et de n'avoir pas de carte, dans le sens que tu es plus libre de t'immerger dans la bande-son et dans l'écoute, et donc de ne pas être obligé de faire attention à des instructions pratiques. En même temps, moi, j'étais tout le temps perdue. Donc, en fait, ça m'arrivait, je pense, 10 fois dans la promenade d'être complètement dans un autre endroit par rapport au groupe.
Je pense que ça induit deux choses différentes. Je pense que quand même l'idée de se promener en groupe, en compagnie de l'artiste, pour moi, je rattache plus à quelque chose qui est de l'ordre de la performance ou du spectacle quelque chose qui est lié à une narration, à une temporalité, à un espace, qui est pour moi quelque chose qui est plus de l'ordre du spectacle, mais au sens large du terme, là où la promenade seule, avec une bande dans un paysage, je ne sais pas pourquoi, mais moi je rattache plus ça au champ des arts visuels. Et j'ai l'impression que peut-être... Enfin, de toute façon, il y a des endroits permanents de croisement entre ces deux choses-là. Elles n'ont pas les mêmes fonctionnements tout à fait, mais il y a des moments où elles peuvent être remises en perspective l'une de l'autre. Alors après, quelles sont les intentions d'un de vous là-dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient avant ou après? Je ne sais pas. J'ai pas eu le temps d'en discuter avec lui. Moi, je sais que j'aime bien les deux situations d'écoute différentes. Voilà, je pense qu'elle propose deux choses qui sont pas tout à fait au même endroit et pas tout à fait dans les mêmes temporalités. Des fois, d'être perdu avec un casque quelque part, c'est intéressant. Et des fois, d'être guidé, c'est intéressant. C'est vraiment des questions de moments différents.
Oui. Merci. Et on peut passer peut-être à Catherine M.
Oui, alors...
Oui,
alors ce que je dirais du travail de Catherine M, c'est que je n'ai pas fait la promenade avec elle. Donc ce dont je vais parler, c'est plus de son dispositif de restitution, que j'ai trouvé très simple et très juste, en ce sens-là que le fait d'avoir côte à côte l'un de l'autre une vidéo dont on pouvait écouter la bande-son au casque, les objets chaussures et une carte... Moi, me plaisait bien dans l'idée de pouvoir expérimenter sa pensée de manière fragmentée et a posteriori. Alors, ce à quoi j'ai été extrêmement sensible en écoutant la bande-son de sa vidéo, puisque je redis que j'ai pas fait son parcours, j'ai trouvé qu'elle avait une qualité d'écoute du paysage que là, pareil, je rapprocherais de l'endroit de la musique ou de la composition. À savoir que j'étais totalement bluffé d'entendre à quel point elle était capable de structurer un temps de parcours presque comme une improvisation musicale à l'intérieur d'un paysage. Et le tout vraiment guidé par le son de ses pas, qui était comme un métronome qui résonnait dans divers espaces, mais en tout cas qui donnait une temporalité à un lieu. Ça, j'ai été vraiment très impressionné par ça, parce que d'arriver comme ça à avoir une conscience du temps et de l'espace qui est proche de celle d'un musicien, mais dans un environnement urbain, j'étais vraiment bluffé par ça. Et je trouvais la même qualité, même si la temporalité était différente dans le travail de Christina. Mais là aussi, je crois que c'est une sensibilité à un temps musical qui m'est propre. Alors après, je n'ai pas fait le parcours vraiment, mais par contre, j'ai beaucoup aimé le dispositif de restitution que je trouvais très simple, très juste et qui permettait comme ça, tantôt en lisant une carte, tantôt en écoutant les sons. J'ai beaucoup aimé le parti pris de restituer le parcours sous forme d'images fixes avec des temporalités différentes. Je trouve que c'est très simple. Je sais pas, on peut apparenter ça au travail de Chris Marker dans La Jetée ou des choses comme ça, mais pour moi de désynchroniser le son et l'image et à un moment de dire que c'est le son qui crée la temporalité et les images qui viennent simplement ponctuer, voilà, je trouvais ça très juste également. Le fait d'avoir une mise en scène des chaussures et peut-être une mise en scène, mais quand on a entendu les sons des pas qui résonnent dans l'espace et qu'on regarde les chaussures, on les regarde plus pareil. Enfin voilà, c'est des choses que je trouvais vraiment, qui moi me faisait. Alors c'est un peu bête parce que c'est du coup ça devient une promenade immobile et c'est peut-être l'imaginaire qui travaille, mais l'imaginaire et la résonance dans l'imaginaire ça travaille aussi dans le. Voilà, c'est à peu près les formes que j'ai expérimentées le plus en détail. En vrai ou
j'ai
en
restitution. J'ai une question sur Catherine. Est-ce que la carte, je veux dire les parcours partitions qu'elle a proposées, t'a donné envie de les faire ou toi-même? Je veux dire, regarder la vidéo et voir la carte, ça t'a donné l'envie de les faire même tout seul?
Non, je ne l'ai pas refait derrière. Je ne l'ai pas refait parce que ce n'est pas un quartier que j'arpente régulièrement. Ouais. Et que au bout d'un moment, il y a quand même une question de rapport quotidien aux choses qui fait qu'on peut aller se balader ou pas. Aller se balader à la Friche Belle de Mai, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Et je pense que ce n'est pas lié au travail de Catherine M ou pas. Hein. C'est lié à un travail de comment on vit un quartier et comment à un moment... On le traverse, on l'essaye. Je pense que ces choses-là se font à un moment de rendez-vous collectif. Après, à expérimenter soi-même une audiobook à un moment ou un autre, ça veut dire qu'on est dans un usage un peu quotidien du quartier, ce qui n'est pas le cas pour moi de l'usage de la Friche Belle de Mai. Voilà, c'est un quartier dans lequel je vais pour des raisons. J'y suis allé pour le Mobile Audio Fest, mais j'y retournerai pas au quotidien pour... pour l'expérimenter mais ça je pense que c'est le quartier qui fait ça, c'est pas la proposition plastique ou sonore.
Oui, c'est compliqué à suivre les instructions qu'en fait pour elle cette dimension si tu veux de la partition est un peu prioritaire, donc oui. Elle aimerait bien dans ses intentions que le public en fait prend en carte et fait les parcours soi-même.
Il y a quel qui marche comme ça, quoi.
Je pense que l'endroit où ça marche vraiment, c'est quand... la vidéo, je pense effectivement que ça marche.
Oui, elle est très bien.
Sinon, je pense que c'est vraiment dans un rapport privilégié avec elle. Je pense que même dans le moment où il y a des personnes qui font ça avec elle, ça ne marche pas.
Non.
Ça a vraiment marché, par exemple. Et contre toute attente, quelque part, enfin pour moi, hein, c'est les deux gamer qu'elle avait avec elle au stage. Mm-hmm. Il y a deux garçons là qui
Marco et
Marco et Maxime.
Oui, Marco et Maxime.
Mm-hmm. Eux, ils étaient à fond. C'est les vachement plus. Tu vois,
mais moi aussi, quand j'ai fait la promenade, j'étais tout seul avec elle.
Mais je pense que si tu veux, par contre, tu vois, eux, ils ont vraiment rentré. Toi, c'est normal quelque part parce que tu suis le travail et tu rentres dedans. Mm-hmm. Mais eux, ils ont vraiment rentré dans ce travail là où qui est quand même pas évident, je dirais. Je pense que le côté de répéter ça au quotidien, de vraiment rentrer dans un travail d'écoute et de répétition, je crois que c'est vraiment le mot que je dis en plus, enfin, elle fait ça comme si elle faisait ses gammes, quoi, en fait. Et eux, ils sont rentrés dedans, ils ont compris, tu vois, ce que les apportait.
Oui, mais je pense que de toute manière, ça c'est une version peut-être un peu extrême d'une qualité qui est commune à tous ces travaux d'audiomobilité, qui sont pour moi faits pour un public restreint, et qu'à partir du moment où on élargit le public à plus d'un certain nombre, on perd l'intention, parce que c'est des choses qui doivent toucher personnellement chaque personne. Et ça, c'est pas comme de regarder un film à 300 personnes ou d'aller voir un match de foot à 10 000. Il y a un rapport, ça peut pas être one too many, c'est un à quelques-uns. Je crois que c'est une constante de ces formes-là, au-delà desquelles on perd, pour moi, l'intention de l'auteur. Et peut-être que pour Catherine M, ça se focalise sur le fait de discuter directement avec un ou deux auditeurs pour qui on compose.
Moi, je vois son travail comme quelque chose de très pédagogique aussi.
Ah, peut-être.
C'est-à-dire que, disons qu'il y a trois niveaux. Un, c'est elle qui est une musicienne, c'est une vraie musicienne. Et donc, elle fait ça comme une pratique musicale. Mais après, elle a une approche avec les autres où, quelque part, elle fait un travail pédagogique par rapport à ces gens-là. C'est-à-dire que ce qu'elle cherche à transmettre,
c'est une qualité d'écoute. Hein.
Cette écoute augmentée qu'elle a développée. Et donc, elle essaie de transmettre ça aux autres. Mmh. Donc,
avec des moyens qui sont minimales.
Oui,
ah voilà. Bah oui, ça c'est bluffant.
Les conditions pour le faire, quelque part, c'est quand
c'est de faire avec
des
elle.
Conditions un peu de pédagogie, quoi, dans l'absolu, mm-hmm. je pense. Mm-hmm. Et après, bon, la vidéo, c'est un peu comme si on avait un disque, tout ça, quelque chose. Enfin, c'est le résultat de son travail musical, quoi.
Ah oui, 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 c'est énorme. Il y a une qualité musicale,
oui,
et d'improvisation dedans qui est bluffante, quoi. Enfin, quand on l'entend, c'est vraiment une qualité d'écoute qu'on trouve rarement. Après, oui, peut-être que effectivement cette chose-là se double d'une nécessité pédagogique. Je sais pas si on.
Mais quand je dis ça, c'est-à-dire que je ne veux pas forcément littéralement, mais en tout cas, elle parle tout le temps de ça. Quand tu parles avec elle, elle parle tout le temps d'ouvrir l'écoute aux gens.
Oui, mais.
Mais c'est quelque chose d'assez. Elle parle beaucoup de ce qu'elle fait avec les enfants aussi, des choses comme ça.
Oui, mais je veux dire, c'est une intention qui est historiquement liée à la tradition des promenades sonores.
Je crois que c'est une
côté
forme.
Côté écologie acoustique, bien sûr,
oui.
Mais.
Ouais.
Côté Murray Schaeffer, etc.
Ouais. Non, mais je pense que, enfin, après, ça vaudrait le coup d'être testé, mais il me semble que une audio walk avec 200 ou 300 personnes, ça commencerait à devenir un truc limite ingérable. Autre chose, ouais, voilà, ouais. Moi, je pense que la question entre l'intimité, l'espace public, enfin, voilà, moi, je pense que la friction entre l'intimité, l'espace public et l'espace d'écoute. Ça fait partie des audio walks, c'est-à-dire il y a un moment où il y a un renversement de ces choses d'intimité, il y a quelque chose qui se crée entre celui qui donne à entendre et celui qui entend, il y a un rapport avec le paysage qui se déploie dans un rapport, je trouve, un peu intime. Mais moi, je parle de ce que j'ai expérimenté. Après, peut-être que quelqu'un peut concevoir une audio walk pour 300 personnes et que. Mais à ce moment-là, il me semble qu'on rentre dans une dimension spectaculaire qui est autre chose, qui est vraiment. Voilà, parce que se déplacer avec un grand nombre de gens, c'est se mettre en spectacle. Et se mettre en spectacle, je ne suis pas persuadé que ça soit toujours aussi simple pour une qualité d'écoute. Parce qu'on devient sensible
ouais,
à d'autres choses. Bon,
non, mais c'est bon.
Voilà.
Merci beaucoup.
La radio, ça, t'étais pas aussi
J'y étais au parc, mais j'arrivais pas à capter correctement les choses et on n'a pas pu rester jusqu'au bout. Donc, j'ai pas très bien compris la proposition. Je pense
ça,
que.
Tu enregistres là encore ?
Oui.
Moi, je veux bien parler de ce que j'ai perçu.
Non, mais parce que, enfin, je voulais, on n'est pas forcément non plus dans du positif total, parce que nous non plus, on n'est pas forcément totalement.
Ah oui, non, mais moi, mais c'est pareil, je veux dire, je pourrais parler des 5 minutes que j'ai passées avec les micros de Jessica Thompson, mais c'est 5 minutes, je ne considère pas que j'ai pu expérimenter vraiment la proposition. Et la radio, c'est pareil. J'ai cherché les points d'écoute. Bon, alors après, peut-être que je n'étais pas assez disponible, peut-être que je n'avais pas le temps. j'ai honnêtement pas compris la proposition.
Quand tu dis qu'elle a cherché les points d'écoute, ça c'était à partir de la carte qu'on t'a
donnée. Oui, mais j'entends.
Tu avais dit des trucs avant, par
exemple. Non, c'était à partir de la. Les deux. On a commencé par suivre la carte, et puis il y a un moment. J'ai suivi quelques indications que tu m'as données, mais vraiment, c'est pas compliqué. Moi, le truc qui m'a pas plu là-dedans, ou auquel j'ai pas été réceptif, c'est que, et ça, j'y tiens de plus en plus, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse à un moment, c'est physiquement les sensations que je peux avoir quand j'entends les choses. Et là-dedans, pour moi, il y avait quelque chose qui était très cérébral ou mental. Et qui faisait que je ressentais rien à chercher les choses, j'éprouvais pas physiquement les choses. Ce qui n'est pas le cas de toutes les formes dont on vient de parler avant, dans lequel il y a un engagement physique. Alors c'est pas forcément dans l'écoute, c'est pas forcément directement dans la proposition, parce que souvent les sons sont entendus avec les oreilles et pas avec l'ensemble du corps, mais en tout cas il y a une mise en jeu du corps. Là, dans la manière dont on se promenait dans le parc, pour moi, il n'y avait pas de... le corps ne rentrait pas assez en compte pour qu'à un moment, j'ai vraiment envie d'aller chercher les choses. Et du coup, j'ai cherché un peu. Et puis, quand je n'arrivais pas à trouver, j'ai fini par arrêter de chercher parce que dedans, il y avait un endroit dans lequel, là, justement, on était amené à chercher chacun séparément. Où la question de l'écoute collective à un moment disparaissait et l'écoute individuelle apparaissait pas. Enfin, il y avait quelque chose qui me... C'est pas lié à la radio. Hein. Je pense que c'est pas lié à la radio. C'est dans la règle du jeu qu'il y avait un endroit qui moi me rendait pas curieux de cette chose-là. J'ai trouvé que la qualité des sons qui étaient proposés, il n'y avait pas une variété et une nature suffisante pour un moment. On ne pouvait pas vraiment non plus totalement filtrer avec les radios. Enfin, il y avait quelque chose qui, dedans, ne me paraissait pas engager engager le corps. Donc, cette proposition-là, je ne l'ai pas totalement ni expérimentée ni comprise. Mais bon, c'est pas grave. Hein.
Mais tu l'as expérimenté. Et tu n'as pas été.
Oui, c'est.
Mais pour nous aussi, c'était.
Ah ben bah, oui. Mais si tu veux, autant par exemple, celle d'Andrew ne correspond pas à mes attentes, mais il y a un moment où on peut en parler. Voilà, parce qu'il y a quand même quelque chose qui se passe dans lequel je peux être d'accord, pas d'accord. La proposition radio, pour moi, il ne s'est rien passé dont je puisse parler, hormis quelque chose où je cherche, je ne trouve pas. Bon, d'accord. Ben,
Et Jessica, juste en deux
mots. Alors, Jessica. Non, Jessica, c'était un manque de temps. J'avais vraiment envie d'essayer. D'essayer le plus possible de propositions avec le temps dont je disposais, qui n'était pas très grand, qui était en gros l'après-midi. Et moi, le travail de Jessica, je trouvais ça super, la question du Zoom, vraiment. Je trouvais que c'était un beau dispositif, mais c'est un beau dispositif dont il devrait être laissé presque en permanence quelque part pour qu'on puisse avoir plus de temps pour l'essayer. Et je ne suis pas persuadé d'ailleurs qu'il fonctionne à l'échelle du quartier, parce que je pense que simplement à l'échelle de la friche, il fonctionnait déjà bien.
Oui, parce qu'il y a déjà pas mal de surfaces.
Oui, parce que pour moi, c'est un dispositif de surface. Et ce qui m'intéressait dedans, c'était les matières, parce qu'il y a quand même, un endroit instrumental dedans, c'est-à-dire qu'à un moment, on joue d'un instrument, l'amplification d'une surface. Mais par contre, difficile de l'essayer, d'en jauger avec peu de temps. Et comme j'avais aussi envie d'aller voir le dispositif de Catherine M, pour moi, c'était plus une question de temps. Après, moi, je trouvais ça super, la question de l'amplification du sol. Voilà, je trouvais que c'était quelque chose de très simple et de très efficace qui donne à un moment envie d'avoir une heure ou deux pour jouer.
Oui, jouer, en fait.
Ouais.
C'est vrai que... Et aussi, c'était intéressant... essayer les différents matériaux dans mon expérience personnelle, les différentes surfaces et aussi les différents espaces de résonance. Moi, je l'ai fait ici à Aix Et en fait, rentrer dans des magasins, rentrer dans des arches, etc., ça changeait. Ben, c'était drôle.
Je ne suis pas persuadé, ceci dit, que ça soit un dispositif d'écoute grand public, en ce sens-là. Que là, par contre, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un essai presque instrumental. Et est-ce que tout le monde a envie de jouer avec ça? Est-ce que tout le monde peut... C'est pas sûr. C'est vraiment pas sûr du tout. Je pense que c'est quelque chose d'appréciable quand on a un minimum d'envie de faire, d'entendre, d'aimer les matières, comprendre que ça donne ça, qu'on peut aller essayer dans les feuilles mortes et que ça va être marrant. Je ne suis pas persuadé que tout le monde à qui on mettrait un dispositif comme ça au pied comprendrait... Si, je me souviens aussi de rencontres amusantes avec le groupe qui travaillait avec Steve Jones. Ça, c'était rigolo aussi. Ouais. Le croisement était vraiment marrant. Ouais, c'était vraiment marrant. Justement, parce que je crois que je les ai croisés avec le dispositif de Jessica Thompson au pied et qu'il y a eu un moment, il y a eu des larcènes entre le système de Jessica et les iPads et que c'était amusant effectivement de voir les cercles et les cartes qui se dessinaient à l'intérieur du lieu comme la friche, qu'est-ce qui fonctionnait par système sans fil, qu'est-ce qui fonctionnait par onde, qu'est-ce qui fonctionnait par amplification. Ça c'était intéressant à mettre en perspective. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'avais envie d'essayer le plus de choses possible, c'était pour voir qu'est-ce qui marchait par quel système. Voilà. Mais malgré tout, ce que j'ai pu essayer de plus dans le détail, ça a été les trois audio walks AX. Voilà, ça c'est. Et là, je me suis vraiment dit que le son était une matière incroyable pour ça. Voilà, que le son permettait d'être attrapé par tellement d'endroits que ça pouvait donner lieu à de la musique, de la fiction, du documentaire, de l'improvisation, et que c'était une matière qui avait vraiment la qualité de pouvoir permettre des rencontres et des échanges assez étonnants entre des artistes qui viennent vraiment d'horizons très très différents. Ça, c'est toujours une belle leçon, je trouve.
Ah, merci François, merci
beaucoup. Mais de rien.
Tu lui as posé la question de la...
Ah, ben, je ne sais pas si on a enregistré de permis. Je crois qu'on a enregistré ça.
Non. Tu peux juste... Tu es d'accord pour qu'on utilise ces enregistrements
Oui, vous pouvez utiliser... C'est acceptation pour faire valoir ce que de droit. C'est la formule consacrée.
Pas de souci, ça a été dit. Bon.
Tu voulais me voir pour autre chose,
hein? Oui, deux questions.